Alors, cette année, on s'était dit avec Julien qu'on allait essayer de mettre un peu en perspective nos ressources sonores, pas toujours vous raconter ce qu'on fait, et aussi voir un peu ailleurs ce qui se fait. Alors, du coup, de ce quoi je vais vous parler maintenant. Alors, d'abord, d'essayer de voir... Donc, du coup, vous avez bien compris, l'enregistrement, pour nous, on le prend comme une donnée à conserver, à valoriser. Donc, d'abord, je vais vous faire un petit tour d'horizon de sites ressources, de bases de données, de cartes sonores, où on peut trouver aussi de l'environnement sonore, mais peut-être dans d'autres approches. Et puis, plutôt des sons de l'environnement, mais dans une autre approche. J'aborderai aussi quelques bonnes pratiques, justement, pour essayer de vous sensibiliser au principe de l'archivage des données, dans les buts de les conserver et les valoriser, parce que dans vos pratiques, vous pouvez être amené à être dans cette situation, comme vous le vivez cette semaine. Et puis, nous verrons aussi comment un projet européen auquel on a participé en 2016 et 2017 nous a permis aussi de progresser dans nos pratiques d'archivage et de valorisation. Alors d'abord, un petit panorama justement des ressources de ces sons de l'environnement. Alors, je vais vous présenter des ressources avec ce double angle. D'une part, de regarder un peu les métadonnées qui sont présentées, l'accessibilité aux enregistrements et puis les licences d'utilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réutiliser ces documents. Et puis d'autre part, donc des différentes approches du sonore. Alors, c'est le début de cette enquête qu'on aimerait approfondir avec Jules. Donc c'est ce qu'on en comprend aujourd'hui, et on espère que l'année prochaine on aura progressé. Mais il nous semble qu'un des opérateurs historiques de l'archivage des sons est la British Library de Londres. Ils ont des ressources assez considérables, avec ces 6 millions d'enregistrements, mais qui ne sont pas que de sons de l'environnement. Il y a des archives orales, de la musique, énormément de ressources, ce qu'ils appellent la wildlife, les animaux, la vie sauvage, et des sons de l'environnement. Leurs ressources, c'est à peu près, qui couvrent une période de 1880 jusqu'à nos jours, et puis ils sont arrivés à mettre en ligne 90 000 aujourd'hui. Et donc en explorant, en essayant de chercher qu'est-ce que c'était cette British Library, donc j'ai trouvé qu'il y avait en fait un projet qui démarrait cette année, qu'ils appellent Unlocking Our Sound Heritage, donc débloquer tout notre patrimoine sonore qui fait partie du patrimoine. Et donc, ils ont un gros fonds avec des mécènes, la Loterie Nationale, pour essayer de financer la numérisation de leurs ressources. Et un des objectifs, c'est effectivement de rénover leur site, parce que vous pouvez voir qu'effectivement, leur site, il est un petit peu désuet. Mais dans une des rubriques qu'ils appellent donc Environnement et Nature, qui nous intéresse plus particulièrement pour mettre en perspective nos propres archives, il y a deux sous-collections là, qui nous intéressent. C'est ce qu'ils appellent Soundscapes et Sound Effect. Alors, on va les regarder un peu pour voir un peu qu'est-ce qu'elles recèlent comme petit trésor. Donc, dans la collection donc, Paysages sonores, là, Soundscapes, on va retrouver ce qu'ils appellent des sons industriels, urbains, naturels. Et nous avons accès, mais en fait, plutôt au descriptif des enregistrements canadiens de Pierre Murray Schaeffer, qui est un des fondateurs de la notion de paysage sonore et de l'écologie acoustique. Donc on a accès uniquement aux métadonnées et aux sonagrammes, puisqu'en fait c'est uniquement dans les établissements d'enseignement de Grande-Bretagne qu'on peut écouter les sons. Donc ça pareil, je vais essayer d'enquêter pour voir si on ne peut pas quand même nous d'ici le faire, et comment et dans quelles conditions. Donc leurs métadonnées sont assez efficaces, sommaires, où vous pouvez voir le type de son, la durée... le sujet, la période d'enregistrement, et puis le compositeur, la provenance et un mini descriptif. Dans la collection Sound Effect, qui était quand même, on s'est dit, quand même là, par rapport à nos effets sonores, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Et bien, en fait, eux, derrière ce terme, ils mettent en fait des sons historiques, hein, de la période victorienne, 1880 à la Deuxième Guerre mondiale. Et on a juste la date de publication, mais... mais on n'a pas la date d'enregistrement. Donc là, c'est pareil, il va falloir que je me renseigne. Qu'est-ce que ce sont ces dates? Pourquoi ils appellent ça des sons historiques? Mais là, en tout cas, ils sont écoutables en ligne et vous pouvez vous projeter dans ce que pouvait sonner une rue à la fin du 19e siècle à Londres. Donc, je vais passer sur cette diapo. Et puis, ces sons de l'environnement, outre voilà, dans des bases de données comme la British Library, depuis une dizaine d'années, on en retrouve énormément sous la forme de cartes sonores. C'est-à-dire qu'on peut, comme ça, les sons sont géolocalisés. Donc sur ce site, Centre cartographique, avait trouvé, je crois, Sylvie, il y a Pierre Aumont, qui est en fait un chercheur en acoustique environnementale à l'IFSTAR, a en fait épinglé sur ce petit site WordPress tout un tas de cartes sonores et il les a organisées de façon thématique. Donc je vous invite à vous y perdre. Donc là, je vais vous présenter quelques-unes des ressources qui sont présentées là. Alors pour commencer, vous avez sûrement déjà rencontré de très nombreuses sound maps qui sont à la recherche de l'identité sonore des villes, polyphoniques et changeantes. Donc celle-ci dont je voulais vous parler, qui s'appelle London Sound Survey, c'est un projet original qui est porté en fait par un ex-archiviste de la British Library qui, étant passé par toutes les arcanes, s'est dit que peut-être les sons des villes n'étaient peut-être pas assez représentés dans les ressources de la British Library et qui depuis 2008 en fait enregistre dans toute la ville des sons. Et il a effectué un quadrillage qui représente cette démarche vraiment très systématique de collecter des sons de l'environnement. Donc on retrouve dans les métadonnées qui sont présentées là la grille de la British Library, mais avec encore plus de précision, puisque vous avez des éléments sur l'heure, le jour de la prise de son, un résumé plus étoffé, et une précision sur le matériel d'enregistrement. Les sons sont écoutables en ligne, et il dit qu'on peut les réutiliser, mais je n'ai pas trouvé comment les télécharger en fait. En tout cas, il précise dans une licence Creative Commons, peut-être que vous connaissez les licences Creative Commons, qui sont des façons de dire aux gens comment vous allez pouvoir réutiliser les ressources que vous trouvez, qui sont mises à disposition, que vous pouvez les réutiliser. Dans ce site qui est foisonnant et nombreuses ramifications, on trouve aussi des parcours sonores, donc qui souhaitent témoigner de la vie sonore urbaine en mouvement. Donc, ces parcours ont été enregistrés et mis en ligne en septembre 2017. Et par le choix, la mise en valeur du résumé qu'on retrouve au fond, par la photo, un plan et un petit schéma qui explique le parcours, on retrouve, je trouve, des choix qui ont pu être portés aussi par Cartophonie, qui vous sera présenté peut-être de façon plus approfondie par Sylvie tout à l'heure. Alors, dans un tout autre univers, des sons de l'environnement, ça peut être aussi des sons qui sont mis au service de ce que ces naturalistes appellent la beauté de la nature. Donc, il y a 90 naturalistes professionnels qui contribuent en fait à cette carte, qui moissonnent 400 enregistrements, qui eux sont hébergés dans d'autres ressources. Donc, vous avez en fait des sons qui sont mis sur Freesound ou sur SoundCloud et qui ensuite sont moissonnés par cette carte. Et puis aussi, il y a des naturalistes qui commercialisent les CD de leurs sons magnifiques de la vie naturelle. Et donc, vous avez ces trois modalités-là. Et sur cette carte, vous pourrez visualiser une couverture mondiale de ces sons qui sont dits des sons au service des merveilles de la nature.
C'est qui les animaux
ou
il y a aussi la flore?
Tout, c'est, voilà, ça peut être le désert. Donc, c'est... Voilà, ce qu'ils appellent ça, on a sélectionné des sons magnifiques, inspirants, donc un peu peut-être un peu dans le zen.
Il n'y a pas des lions.
Ça peut être aussi d'une manière très scientifique. Moi, j'ai rencontré un de ces audio-naturalistes qui essaye de répertorier tous les criquets, grillons, cigales qu'on peut trouver en France. Je crois qu'il y en a 48 espèces. Et donc, il les repère et il essaie de les enregistrer. Lui, il publie des CD. C'est Fernand, voilà.
Alors justement, Julien, au fil de ses pérégrinations, a aussi rencontré des électroacousticiens. Et donc sur cette carte, qui est très intéressante, je trouve, les sons de l'environnement donc, sont triés et organisés pour servir de base à des compositions électroacoustiques. Donc Phono Ambiance est porté par une association culturelle portugaise de Porto, Sonoscopia, et leur projet est centré sur la documentation et la transformation artistique du patrimoine sonore. Donc vous avez un code couleur, en fait, et en fonction des... qui typifie un petit peu les types de sons qu'ils ont pris dans la ville. Donc ils appellent ça ambiance, identité, voix, détail, célébration, réverbération. Donc c'est des catégories qui me paraissent comme ça un petit peu disparates. Mais cette association, en fait, elle propose d'accompagner la création par le biais d'outils, de formations. Donc on se part des sons de l'environnement pour aller vers la musique. Ça, c'est un autre projet qui part des sons de l'environnement vers l'imaginaire. Mais bon, je veux pas, voilà, je vous le laisse, mais pas non plus dépasser mon temps. Et dans ce dernier exemple, pour terminer ce petit tour de carte, bien là, les sons de l'environnement, ils sont collectés et mis en ligne, et ils sont aussi associés à des textes, des photos, des paysages, des fêtes, aussi des enregistrements de fêtes. Et du coup, là, les sons, on voit, de l'environnement, ils sont comme un élément d'un corpus au service de l'affirmation d'une identité régionale, ici, basque. Donc le contenu est sous licence Creative Commons, les sons sont téléchargeables, et les métadonnées sont très variables, parce que c'est une carte participative, donc en fait, c'est la façon dont la personne va contribuer, comment elle sera arrivée, jusqu'à quelle précision de détail elle sera arrivée. Donc ce foisonnement de cartes et d'accessibilité à l'environnement sonore ne doit pas nous faire oublier qu'en fait, il y a aussi le cimetière des cartes et des bases de données, et les liens rompus, les erreurs 404, et les groupes qui ne peuvent plus trouver de financement, comme Escoitar, avec qui on avait pu travailler, et puis qui a été dissous. Et du coup, on se rend compte que ces arrêts brutaux doivent nous faire réfléchir à nos pratiques quotidiennes d'archivage et au choix de nos outils, puisque tous les jours, on est confronté à des outils qu'on utilise et qui disparaissent, comment on fait, et quel logiciel, et comment je vais nous débrouiller. Donc, humblement, on peut essayer de voir ensemble un certain nombre de pratiques qu'on a petit à petit mis en place au Cresson, autour des sons, mais qui, je pense, aujourd'hui doivent être aussi répandues sur les autres données que l'on peut collecter dans la recherche. Donc évidemment, quand vous enregistrez plein de sons, les chercheurs ils vont en trier, ils vont en sélectionner certains, et puis on a mis en place un certain nombre de règles de nommage. Donc vous le savez, j'imagine, mais bon, quand on nomme un fichier quel qu'il soit, c'est ni tiré, ni caractère accentué, ni espace. Ensuite, il faut aussi se dire dans quel format j'enregistre ce son-là, quels sont les formats de conservation, quels sont les formats de diffusion. Donc le CINES, qui est un opérateur d'archivage pérenne de l'enseignement supérieur à la recherche, propose un site internet, là, c'est cet outil-là que j'ai mis un lien derrière, ça s'appelle Facile, et vous avez en fonction des différents types de documents, que ce soit du papier, de la vidéo, enfin que ce soit de l'imprimé, de la vidéo, du son, les formats qui sont aujourd'hui documentés et qu'on pense qu'ils vont être un peu plus pérennes que les autres. Donc aujourd'hui, c'est le WAVE et le FLAC pour la diffusion. Le MP3, dans lequel évidemment tous nos sons mis en ligne sont, et bien, en fait aujourd'hui n'est plus considéré comme un format pérenne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on le sait en tout cas. Ensuite, on se dit qu'un document, si on veut le conserver, il faut à un moment donné qu'on sache, comme le dit Jules, qui c'est, dans quel contexte, etc., le faire parler, cet enregistrement. Parce que c'est extrêmement coûteux en temps d'aller explorer a posteriori si on avait les droits, parce qu'ici il y a de la parole et c'est un entretien d'archives orales, et évidemment de savoir qui c'est qui l'a fait et quand. Donc ce temps-là, pour se l'éviter, il faut documenter, contextualiser les enregistrements. Donc on décrit l'enquête globale, c'est-à-dire la recherche qu'a menée le chercheur, et puis ensuite on décrit le son en disant quels sont les preneurs de son, les dates, les lieux, le matériel, la qualité, et un certain nombre de mots-clés, en essayant de choisir comme ça des champs qui sont en fait déjà réfléchis par d'autres, c'est-à-dire on a des schémas de métadonnées qui sont un peu standards. Et donc pour ça, par exemple, vous avez un document qui est vraiment remarquable, qui s'appelle le patrimoine culturel immatériel, sur lequel on s'appuie. Ce sont des archivistes de l'histoire orale, surtout, et des archives orales, qui ont mis en place ce petit guide. Et nous, on se dit, dans le cadre des sons de l'environnement, comment on peut s'adapter et qu'est-ce qu'on peut prendre comme schéma de métadonnées pour décrire nos propres sons. Et puis, on réfléchit, évidemment, à tout ce qui est autour du domaine juridique. Et évidemment, on a quand même pas mal de chance, parce que dans le son de l'environnement, on n'est pas trop confronté aux problèmes juridiques. Mais si vous faites des entretiens, et bien vous pouvez vous reporter à ce carnet qui s'appelle « Questions, éthique et droit en SHS », qui est absolument remarquable et où les billets sont vraiment à destination du chercheur et qui explique « Vous enregistrez un discours, vous transcrivez un entretien, vous utilisez des images, quels sont vos droits, quelles sont vos possibilités ?» Et c'est à la fois très précis et très vulgarisé. Je pense que c'est un blog remarquable. comme autre bonne pratique, eh bien, si vous mettez votre son en ligne quelque part, eh bien, il faut qu'à un moment donné, l'URL elle soit stable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dépendante du système que vous utilisez, du logiciel que vous utilisez pour visualiser ou pour faire écouter le son. Et donc, vous pouvez vous interroger sur quels sont les serveurs institutionnels, des centres d'archives où vous pourriez déposer vos enregistrements, ou Internet Archive, qui est quand même une espèce de mémoire du web qui a l'air assez stable, qui est un projet américain. Et ensuite, et bien évidemment, on essaie d'utiliser des outils open source qui soient documentés, et aussi cette idée de se dire, mais mes données, il faut qu'elles puissent à un moment donné être exportables. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un catalogue de bibliothèque ou une base de données dans laquelle j'ai décrit mes sons, etc., il faut que si je dois en changer parce que ça meurt, parce que, etc., mes URL elles soient stables, elles soient hébergées ailleurs, et par ailleurs, que je puisse exporter ces données dans un format quand même assez facilement exportable dans d'autres bases de données. Et aujourd'hui, il y en a plein, nous en tout cas ici, celui qu'on utilise, c'est le CSV, c'est un format tableur, et qui est facilement exportable d'une base de données à une autre. Ensuite, bon, on en a parlé, des licences Creative Commons, donc ces sons, on demande aux chercheurs ben, comment tu veux qu'ils soient écoutables ou réutilisables, ben, voilà, et donc on leur propose un choix de licence Creative Commons. Et puis je pense qu'il faut, et ça c'est une deuxième étape qu'il va falloir qu'on remette en place davantage, même si on a commencé à le faire, c'est de documenter sa méthode de travail et ses choix. Alors si je fais ce choix-là, comment je le fais, etc., je le décris. Et travailler ensemble, parce que de travailler avec d'autres unités CNRS ou avec d'autres collègues, etc., ça nous permet de progresser, d'échanger sur nos pratiques. Alors derrière tous ces petits éléments concrets, on va dire, de notre vie avec les données, quels sont les principes qui sous-tendent ces pratiques aujourd'hui ? Donc il y a des concepts en recherche et tout ça, mais nous aussi pour les données. Donc en ce moment, le terme c'est faire. Tout le monde se dit il faut être dans le faire. Alors qu'est-ce que c'est que ce faire ? Donc c'est cette idée qu'il faut que vos données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc les organismes de financement de la recherche, vous savez, incitent les chercheurs à publier dans les archives ouvertes leurs articles. Donc depuis longtemps au Cresson, on a des archives ouvertes, tous les articles des chercheurs on essaie de les mettre en ligne, etc., dans l'archive ouverte qui s'appelle HAL. Mais aujourd'hui, les organismes de recherche, ils vont plus loin, ils disent, mais c'est en fait les données associées à vos recherches, elles doivent être aussi findable, hein, comme ils disent, voilà, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc ça veut dire que c'est un chantier considérable qui s'ouvre. On l'a déjà amorcé sur le son, mais il faut imaginer que ça pourrait être sur toutes les autres types de données. Alors évidemment, quand on est face à cet horrible chantier de se dire toutes mes données, je dois les nommer, les métadonnéiser, les mettre dans des bases de données, etc., on est un peu les bras ballants, on se dit mon Dieu, comment je vais faire. Et là j'ai trouvé que c'était super cet article en janvier 2018 d'un archiviste de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, qui en fait a sorti un article qui dit la conservation des données, c'est ni une révolution, ça fait quand même des années qu'on est là-dedans, et c'est ni inatteignable. Et du coup, il disait, quand vous êtes face à toutes ces normes et ces standards et à toutes ces pratiques, ne vous mettez pas la pression, faites comme vous pouvez, vous essayez de les connaître, vous essayez de ne pas les ignorer, parce que les ignorer, c'est pas fécond, et s'en encastrer dans un format que vous n'arriverez jamais à vous tenir, c'est pas bon non plus. Donc expérimenter, et donc voilà, c'est ce que je crois on essaie de faire ici. Donc du coup, finalement, en expérimentant un peu, on est arrivé à travailler avec Sylvie et Grégoire sur Cartophonie, sur un projet européen en 2013 qui s'appelait European Acoustic Heritage, qui fait partie du cimetière des cartes. Et donc du coup, en 2016-2017, on a travaillé sur le projet avec European Ascend. Alors, qu'est-ce que c'était ce projet European Ascend ? Donc c'est un projet financé par la British Library, ce qui quand même laisse penser qu'effectivement, oui, c'est un opérateur fondamental de l'archivage des sons. Et donc ce projet qui était porté par la British Library et financé par la Commission européenne avait deux partenaires en France, le CNRS avec deux équipes que je vais vous présenter et la BNF. Et leur intention, c'était de mettre 1 million d'enregistrements sur la base Europeana. Parce que cette base Europeana, cette base européenne, elle avait en fait beaucoup de textes et pas de sons. Donc ils s'est dit, on va arriver, on va mettre des sons. Bon, finalement, ils sont arrivés à 700 000 au terme des 3 ans. Donc les deux partenaires sont deux partenaires importants qu'il faut peut-être connaître quand on parle de sons en France. C'est d'une part le CREM, c'est en fait le fonds d'archives du CNRS du Musée de l'Homme, qui rassemble depuis 1900 jusqu'à nos jours des enregistrements inédits et publiés de musique, de tradition orale, d'enquêtes ethnographiques dans le monde entier. Donc vous imaginez les enquêtes ethnographiques, partir en Afrique, enregistrer les gouloulous, c'est absolument incroyable leur fond. Et puis ensuite, à Aix-en-Provence, c'est la MMSH. Derrière, c'est Véronique Ginouvet, c'est un personnage vraiment très important de l'archivage des enquêtes orales. Et donc, cette phonothèque qu'elle anime magnifiquement, elle a pour vocation de réunir des enregistrements du patrimoine sonore de l'ère méditerranéenne. Donc, ça va être beaucoup d'enquêtes orales, linguistiques, historiques, pour essayer d'éclairer l'histoire de l'ère méditerranéenne avec d'autres documents que des documents textuels. Donc en 2016, ils se sont dit on va jamais arriver à 1 million, donc il va falloir qu'on trouve des petits pour nous aider. Donc nous, on a été là, un tout petit pins, puisqu'on a contribué avec 900 enregistrements, mais en même temps c'est quasiment la totalité de nos archives. Et du coup, on a dit, oui, nous, on veut être partenaire associé. On était très fiers, on ne nous a donné aucun argent, mais on a essayé de rentrer dans leur modèle de métadonnées, qui est en fait le DMS. Et donc, en fait, on a exporté en CSV nos petites métadonnées pour rentrer sur Europeana. C'était quand même bien galère. Donc, normalement, on doit continuer, mais il faut dire que, voilà, on dit qu'on va continuer. Et surtout, je trouve quand même que c'est aussi dire que le Cresson, ben, il a ses enregistrements, mais à une autre échelle, parce qu'ils avaient un projet de communication très fort, et donc il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de billets de blog en anglais, co-écrits avec le CREM, la MMSH, et puis un autre labo qui s'appelait Lara de Lyon, et qui avait aussi des vinyles. Et de la musique, et du coup, c'était aussi voilà, de travailler ensemble, de travailler à cette valorisation commune, ça a été vraiment une... Et donc encore, là, en janvier, il y a eu un billet de blog qui est paru sur par rapport à un congrès d'archivistes faire connaître nos données. Donc voilà ce que ça peut donner sur Europeana. Donc en gros, ce que vous a montré Jules, qui est sur le site de l'UMR, et ben, en fait, on peut le retrouver aussi, tous les corpus... Sur Europeana, puisque chaque petit...
Il y a des images qui sont associées à ça.
C'est ça, c'est-à-dire que chaque...
Qui sont représentatifs de l'enregistrement ou qui sont...
Alors, d'une part de la collection, qui décrit en fait la collection liée à cette recherche, et ensuite, pour chaque enregistrement, alors là, du coup, je vais vous montrer comment ça se passait exactement sur le site. Et ensuite, pour chaque enregistrement, on a essayé d'associer une illustration. Donc,
là, c'est pas systématique.
On essaie.
Aujourd'hui,
mais c'est un rapport avec le son qu'on écoute.
Ah oui.
Voilà. Mais parfois, pour une collection, on a une image icône de l'ensemble de la collection. On n'aura pas des sons illustratifs de chaque enregistrement.
Donc ça, c'est effectivement la plus-value de cartophonie. Comme cette carte que vous montrera, il y a effectivement des images associées au son. Donc maintenant, on essaie aussi de demander une illustration associée à l'enregistrement.
Je pose ça comme question parce que nous, on a, par exemple, tout à l'heure, on écoutait le son, mais parfois, on s'est habitué plus à donner des images un peu figuratives de ce qu'on attendait, pas forcément réelles, mais là, c'est...
Réel. Oui. Ça peut être un schéma, ça peut être un dessin, ça peut être un plan.
Ça peut être un plan de parcours, par exemple.
Ça peut être un plan de parcours aussi, comme nous a montré Julien. Et là, du coup, ça, c'est sur Europeana, donc on peut écouter en ligne. On a une image effectivement, de l'enregistrement. Ensuite, on a le descriptif, le créateur et un collaborateur, des éléments de mots-clés, le type de prise de son, la durée. Et puis ensuite, vous imaginez pour 38 secondes, des fois ça fait rire quand même. Donc, et puis après, la provenance, et ensuite vous avez les droits, la façon dont on peut utiliser cet enregistrement, parce que ça fait partie de cette collection, c'est-à-dire que ça fait beaucoup, et la localisation qu'on peut trouver sur. Mais en fait, c'est le travail d'archiviste, c'est ça, c'est de décrire une collection et ses items. Et, bon. Bon, pour 38 secondes, c'est vrai que des fois, ça fait bizarre. Bon, c'est pas mal, c'est plus long, c'est mieux. Et puis, ensuite, bon, ça, du coup, je vais aussi vous montrer que ben, finalement, en valorisant nos sons de l'environnement, parce que c'est quand même un peu spécial dans le monde des archives sonores, c'est plutôt des enquêtes orales en général. Et là, on s'est rendu compte que le CREM à Paris s'est rendu compte qu'eux aussi, ils avaient 25 sons de l'environnement. Et du coup, eux, ils ont cette visualisation en fait sous forme de sonagramme. C'est-à-dire, quand on écoute le son, on voit le curseur se déplacer sur le visualisateur de son. Et pour terminer, je voulais juste vous parler de choses qu'on n'a pas fait nous, mais qu'a fait la phonothèque de la MMSH, mais que je trouve super intéressant. Et je me dis peut-être qu'un jour, on pourrait arriver aussi à faire ça. C'est-à-dire que dans le travail de... Parce qu'il y a valoriser le son, il y a le partager dans des bases de données, et puis il y a essayer de trouver des façons de réutiliser ce son par d'autres. C'est, en fait, c'est ça ce qu'ils disent dans le faire. Donc attention, vous devez faire attention à vos données, comment elles sont nommées, comment elles sont accessibles, etc. Et favoriser leur réusage. Et c'est pas super facile de favoriser le réusage de sons d'ici. En tout cas, comment fait la phonothèque, comment ça pourrait nous donner des idées? Par exemple, en 2015, ils ont fait venir des gens de Wikipédia et ils se sont dit, en fait, on va enrichir des articles de Wikipédia avec des données d'archives orales, déposer, par exemple, le fichier son de cette enquête orale sur Wikimedia et de lier les deux. Nous, on pourrait très bien dire, on fait venir Wikipédia, il nous explique comment on écrit dans ce wiki, on écrit le billet, c'est vrai, l'article sur effet sonore ou sur qui n'existe pas, et ensuite derrière on y lit des enregistrements sonores de la collection des effets sonores. Et ensuite, une autre grande tendance aussi pour la réutilisation des données, c'est le fait de faire contribuer les gens à l'enrichissement de tes données. Donc ça voudrait dire, par exemple, on pourrait faire écouter à une communauté d'experts des enregistrements et ils trouveraient d'autres effets sonores ou d'autres termes à mettre, d'autres mots-clés à mettre sur nos enregistrements. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, à la phonothèque, d'enrichir leur enregistrement avec un référentiel d'instruments de musique, puisqu'ils ont aussi beaucoup d'enregistrements de chansons et de musique. Donc voilà, c'est fini, quelques ressources sur lesquelles dont j'ai parlé. Et puis ensuite, ici, pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe chez nous, donc on peut lire un peu les ambiances et les environnements sonores dans un certain nombre de sites, et notamment sur des carnets, hypothèses, comme le Cresson Veille et Recherche ou le Cresson Enseigne, et puis on peut écouter les sons sur le Cresson, sur le site du laboratoire, sur Cartophonie, sur Europeana, et on fait un travail aussi de veille scientifique. Donc voilà.
Merci.